Dictionnaire de sagesse ancienne. Cette émission présente les idées fondamentales de la sagesse éternelle, sagesse ancienne qui comprend les traditions initiatiques du passé, mais aussi les enseignements ésotériques modernes. Et pendant cette heure, nous allons tenter de définir pour vous quelques mots clés en rapport avec cette sagesse. Bonjour David.
Bonjour Olivier, bonjour aux auditeurs.
Es-tu en forme aujourd'hui?
Oui, très en forme.
Alors on va commencer fort par un mot que beaucoup d'auditeurs n'auront jamais entendu prononcer, j'imagine. C'est le mot en deux mots en fait, Sanat Kumara. Sanat, S-A-N-A-T, Kumara.
Kumara, ça se prononce
Kumara.
Kumara. Kumara. Alors voilà, seuls les hindouistes chevronnés... reconnaîtront le nom d'une entité très, très importante dans l'hindouisme, également dans l'enseignement ésotérique. Sanat Kumara, qu'est-ce que ça veut dire? Sanat, ça veut dire ancien, éternel. Ça vient d'une racine as, qui veut dire être, et ça donne cette notion de sanat, de vieux, quelque chose qui demeure constamment. Et Kumara, c'est le vierge, avec une idée d'adolescent vierge. Sanat Kumara serait un adolescent vierge de 16 ans, immortel.
Ça veut dire jeune, alors...
Jeune, mais vierge aussi important, vierge pure, et vierge aussi même au sens yogique, c'est-à-dire qui n'a pas engendré, qui n'a pas émis de semences et qui a transmuté ses énergies. C'est ça l'idée du parfait yogi vierge. Et donc ça représente, il représente un des kumaras, il y a sept kumaras, ce sont des êtres cosmiques, d'une conscience cosmique qui présiderait au destin de cette planète. Et Sanat Kumara serait celui qui est au centre de ce groupe. Dans les enseignements ésotériques, Sanat Kumara serait venu sur Terre il y a 18,5 millions d'années. En fait, il était déjà présent avant, mais il s'est manifesté dans un corps, c'est un corps éthérique. Et les Kumaras seraient dans des corps donc de lumière dans la région du désert de Gobi, qui est la résidence de Shambhala, proprement dit. Donc les Kumaras seraient à Shambhala.
Donc on ne peut pas les voir, hein,
on peut pas les voir
dans le domaine éthérique de la matière.
Et ils sont plus élevés que les maîtres de sagesse encore, c'est-à-dire que ce sont vraiment littéralement les assistants du dieu de cette planète, et Sanat Kumara incarnerait en quelque sorte le dieu de cette planète. Donc ce sont des sortes d'avatars, on peut dire. Ils viennent donc
des envoyés de Dieu.
Voilà, ils viennent de la planète Vénus, pense-t-on. Et donc ces Kumaras sont des yogis. Alors tout le thème de ceux qui refusent de créer, etc., leur est apparenté parce que ce thème représente ceux qui n'ont pas participé directement à l'évolution des hommes, mais qui ont stimulé quelque part par cette influence vénusienne. Ils ont stimulé l'évolution et la naissance du règne humain et ont toujours stimulé l'humanité, mais sont aussi derrière la stimulation des énergies divines dirigées vers les différents règnes. C'est-à-dire vers les animaux, vers les végétaux, les minéraux, vers les hommes, même vers les maîtres. Les maîtres constituent, par exemple, pour Sanat Kumara, son groupe. Donc c'est une entité très, très importante. C'est une sorte... Il représente l'Ancien des Jours, dans la Bible quelque part, hein. D'ailleurs, ancien, c'est intéressant, on retrouve encore cette notion de Sanat, hein. L'ancien des jours, il représente Jéhovah quelque part, ou il incarne Jéhovah sur Terre, logos de la planète. Donc il est très important, et il représente l'aspect volonté, collectivement. Les Kumaras incarnent l'aspect volonté à Shambhala.
Donc leur travail, ça consiste à quoi? À faire que le plan divin se manifeste sur la planète?
Alors, eux s'occupent du dessein divin, c'est-à-dire qu'ils connaissent la nature divine profonde de cette planète et sa destinée ultime. C'est ça le dessein. Le dessein, c'est le début, c'est l'alpha et l'oméga.
Ce qui est prévu, quoi.
Voilà, c'est la destinée profonde de cette planète. Et le plan, c'est à certains moments, ce qui est possible de mettre en œuvre. Et les maîtres reçoivent régulièrement, tous les 100 ans,
Là, tu parles des maîtres de sagesse,
voilà,
hein?
les maîtres de
Oui.
sagesse correspondent au groupe intermédiaire. Il y a Shambhala, le règne de ces vies kumariques, planétaires, les maîtres de sagesse, l'humanité. Les maîtres de sagesse servent d'intermédiaires. Et les maîtres de sagesse reçoivent cycliquement les influences de Shambhala, alors chaque année à un moment précis, autour justement de la pleine lune du taureau. Mais tous les 100 ans, il y a un plan de nouveau qui est reconsidéré pour l'humanité. Donc le plan est une partie du dessein divin. Et le dessein, c'est, donc on a dit, sa destinée ultime de cette planète, et puis cette destinée est liée à sa nature divine, et les Kumaras, en quelque sorte, incarnent, transmettent, incorporent cette énergie, ce dessein divin. Donc ces différentes phases de l'aspect volonté, il y a sept types d'énergie de volonté, et eux incarnent ces différentes énergies. Ils les reçoivent aussi des autres planètes, du Soleil, donc ils reçoivent ces énergies extraplanétaires et ils les transmettent. C'est un peu la couronne, le sommet de la tête de la planète.
L'être pensant quoi de la planète.
Voilà, il représente vraiment donc la couronne, la partie qui reçoit l'impact des énergies extraplanétaires. C'est eux qui les absorbent, qui les transmettent aux maîtres. Et ils sont donc très 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 importants dans cet enseignement ésotérique. Et on retrouve aussi beaucoup de mythes très intéressants sur les Kumaras dans les allégories hindoues.
David, l'homme quotidien que nous sommes et qui t'écoute là, ça donne. Enfin, moi, l'impression que j'ai, c'est que du coup, bah, il n'y a pas de hasard. Alors, c'est pas le hasard qui préside la destinée de l'humanité.
Pas du tout. Le hasard, comme disait Einstein, c'est le nom que s'est donné Dieu pour passer incognito. Donc en fait, le hasard, c'est tout simplement, on avoue notre ignorance quand on parle du hasard. Quand on croit que c'est le hasard qui a créé le monde, on se rend compte qu'il y a des constantes universelles et qu'il y a un tel équilibre que si on avait changé un millionième, je sais pas,
Un iota quelque
voilà,
part,
un
ça.
iota quelque part, ça aurait complètement désorganisé et rendu impossible la création du monde. Alors oui, il y a un dessein, y compris pour cette planète, et ce sont les gardiens du dessein divin, alors que les maîtres sont les gardiens du plan à des moments donnés, tous les 100 ans, dit-on, et même sur une ère zodiacale, grosso modo. Donc, mais le dessein, c'est la destinée profonde des choses. C'est pourquoi ces êtres incorporent l'aspect volonté.
Donc sur
Ça.
chaque planète où il y a des humanités, eh bien il y a aussi comme ça des êtres qui sont en fait des intermédiaires entre une sorte de divinité supérieure et puis l'humanité.
Oui, alors chaque planète, s'il y a des humanités, on l'a souvent dit, elle est incarnée, mais éthériquement, d'ailleurs dans un corps plus subtil que l'air, c'est pour ça
Oui,
qu'on.
l'humanité n'est pas forcément physique
Voilà.
comme chez nous.
Et il y a donc les autres règnes, et il y a forcément un règne de Shambhala, l'équivalent du règne de Shambhala, de ces vies planétaires qui ont une conscience cosmique, c'est-à-dire qui ont une conscience qui dépasse le système solaire, alors que les maîtres ont une conscience planétaire et solaire, c'est-à-dire des autres planètes. Mais eux, ces êtres cosmiques, ont une conscience donc plus grande. Et ils sont reliés même à des sources de constellations comme celle de la Grande Ourse. Ils sont directement d'ailleurs reliés aux sept étoiles de la Grande Ourse, qui transmettent, qui sont la source, disons, électrique des sept énergies primordiales, les sept rayons. Et eux l'incorporent, elles passent par les différentes planètes, et la Terre reçoit, par exemple, le premier rayon, et de la première étoile passe par une planète, et elle arrive sur la Terre après. Et c'est le Kumara qui représente cette énergie-là qui la reçoit. Donc on voit c'est pourquoi ils sont sept. Et Sanat Kumara est au centre.
Bon, donc Sanat Kumara, un être qui est dans un corps éthérique et qui à la tête d'un groupe d'êtres du même type et qui sont responsables de ce que la Terre aille dans selon son dessein, c'est ça?
Oui, la
Je veux dire.
Terre, alors c'est pas seulement l'humanité, c'est tout ce qui peuple la Terre, toutes les évolutions de la Terre.
Écoutez le dictionnaire de sagesse ancienne. David, on passe à un autre mot. Un mot que je suis étonné de trouver dans ce dictionnaire, c'est le mot destruction.
Oui, destruction, ça paraît pas très spirituel, on va dire.
alors que ça l'est, c'est ça qui est intéressant. C'est trop chargé négativement, malheureusement. C'est un mot neutre en soi,
Comme
la
tous les mots, oui.
destruction. Voilà, comme tous les mots. Si on veut, admettons, j'achète un terrain. Il y a une maison complètement pourrie. Sur ce terrain-là, je veux faire construire une belle maison. Faut que je détruise. Faut que j'enlève le vieux.
Ouais.
Ben voilà, c'est tout simple. On fait constamment des actes de destruction. Quand on met les choses à la poubelle, c'est un acte de destruction. Sans la destruction, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie possible. On est constamment en train de détruire, de se débarrasser. Sur son ordinateur, on supprime. On est constamment en train de retirer ce qui n'est plus utile. Et heureusement, fort heureusement, on repousse l'air. L'air vicié de notre corps, c'est une forme de destruction.
Ah
Hein?
oui, expirer, oui, c'est vrai.
Expirer, c'est une forme de mort. D'ailleurs, c'est associé à la mort. On expire, on meurt,
Ah oui.
on détruit, on enlève. Donc la destruction, c'est un acte, une énergie divine qui retire ce qui est incompatible, ce qui gêne l'évolution, ce qui est cristallisé. C'est un aspect du premier rayon, la première énergie fondamentale de Dieu, de l'aspect volonté de Dieu. On a parlé avant des Kumaras. Les Kumaras représentent, incarnent l'aspect volonté. Donc leurs énergies détruisent et régénèrent en même temps, vitalisent. C'est la même énergie. Dans l'hindouisme, on dit que c'est Shiva qui fait cela. Shiva détruit, mais en même temps régénère. Parce que c'est la même énergie. En fait, l'énergie de régénération détruit. Quand on amène cette énergie de vie, de pouvoir, elle enlève ce qui est symboliquement la mort, ou ce qui représente la cristallisation, ce qui n'est plus utile, pour la remplacer par une nouvelle énergie pleine de vie. Jusqu'à ce que cette nouvelle forme périclite se cristallise et qu'il faille nécessairement.
La détruire à son tour.
Voilà.
Ah
Donc, ce
oui,
n'est pas
c'est vrai.
forcément de la violence, la destruction.
Oui, c'est vrai. On pourrait imaginer la vie sur Terre si tout ce que l'humanité a connu dans son histoire était encore présent et si on voulait tout garder.
La
Ouais.
mort, par exemple, si on gardait toujours. Si on ne mourait pas et qu'on gardait, et que les corps continuent de vieillir, ça serait l'enfer. Donc, on meurt, il y a l'âme. Envoie une énergie de destruction dans le corps et le corps meurt.
Ouais.
Donc fort heureusement. Donc il faut vraiment voir ça. Les mystiques ont tendance à juger, à mal comprendre cette énergie, qui est une énergie profondément occulte, cachée quelque part. Mais elle agit constamment. Alors elle agit plus à certains moments, à la fin de chaque cycle zodiacal. Cette énergie détruit et libérée pendant un certain temps sur la planète. Et elle va détruire toutes les formes anciennes. Entre la fin d'une ère zodiacale et le début d'une nouvelle. Elle inaugure la nouvelle ère en détruisant, en apportant cette énergie. Et c'est ce qu'on appelle en fait l'antéchrist. C'est ça à la base, l'antéchrist. Le Christ étant la deuxième énergie, l'énergie christique, l'énergie qui va construire, l'énergie d'amour qui va attirer, construire. Avant vient l'antéchrist. Et ce n'est pas l'antichrist. C'est l'antéchristos, c'est avant le Christ.
Hanté avant, oui.
Voilà, avant. Et cette énergie donc est libérée cycliquement par Shambhala, justement. Le problème, c'est que certaines personnes qui ont du premier rayon dans leur nature ont tendance à mal employer cette énergie-là.
Donc premier rayon, c'est la volonté, le pouvoir,
La puissance, la
puissance, quoi.
destruction. Et ces êtres-là, ça a été le cas de Néron, par exemple, qui était beaucoup influencé par cette énergie-là, a mal utilisé ce pouvoir. Donc il incarne en quelque sorte l'antéchrist, mais il n'est pas l'antéchrist. Mais il incarne à ce moment-là le mauvais usage de cette énergie-là. Et l'effondrement de l'Empire romain n'est pas étranger à cette descente qui a en même temps permis l'explosion du christianisme, justement, de l'énergie christique. Et donc elle vient cycliquement. La dernière fois qu'elle est venue, c'était au XXe siècle, durant les deux guerres mondiales.
Cette énergie de destruction, oui,
Voilà.
c'est assez clair, ouais.
C'est assez clair, hein. On a eu des millions et plusieurs dizaines de millions de morts.
Bah,
Hein.
100 millions de morts, on dit,
Voilà,
hein, généralement.
environ. Ouais. Et rien qu'en Russie, on a 20 millions pour la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. C'est vraiment énorme. Et donc, normalement, c'est un conflit qui existait sur le plan émotionnel. Et on aurait pu vivre le conflit à ce niveau-là. Il aurait pu être détruit à ce niveau-là. Mais certaines personnes l'ont incarné. Hitler, Mussolini, le groupe militariste conduit par un ami, le général japonais. Donc, les forces de l'Axe ont incarné durant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont fait descendre plus bas. Et précipiter la guerre. Idem pour ceux qui ont créé la Première Guerre mondiale. Il faut voir donc que cette énergie, il y avait des vieilles formes. Alors quand on dit des formes, c'est pas forcément des formes physiques. Bien sûr, quand il y a la guerre, on voit qu'elles sont détruites, ces formes-là. Mais il y a des vieilles formes pensées, émotionnelles ou mentales, qui devaient être abandonnées et détruites. Et c'est ça qui aurait dû se passer, en fait. Ça aurait pu se passer à un point de vue diplomatique, psychologique, entre les nations et au sein des nations. Mais c'était précipité, mais ce n'est pas de la faute de cette énergie-là. Donc cette énergie est neutre. Elle vient cycliquement. Et c'est énergie de destruction.
Est-ce que...
on peut l'employer à un niveau individuel.
Voilà,
aussi.
Oui, c'est un peu ça. Je voulais amener ça là-dessus. Est-ce qu'au niveau individuel, dans notre évolution en tant que personne, au fil d'une vie, on ne doit pas aussi détruire certains aspects de nous-mêmes ou qui sont plus adéquats au fur et à mesure que la vie passe?
Tout à fait. Ça se fait naturellement, mais si on est à l'aise avec cette énergie-là, ça peut se faire plus activement. Où on peut détruire. Alors détruire, c'est pas qu'on va prendre son marteau comme Nietzsche, on l'appelait le philosophe du marteau parce qu'il avait beaucoup de premiers rayons d'ailleurs, et qui lui par exemple a détruit beaucoup de choses quelque part aussi. Hein. Mais on peut détruire en effet, se séparer, abandonner, ne plus nourrir, c'est ça aussi détruire, c'est on retire la vie quelque part à quelque chose donc elle meurt. Donc tout ce qui est inadéquat, tout ce qui nous limite, tout ce qui nous gêne, si on a des croyances limitatives, on a intérêt à les détruire. Si on pense qu'on ne voit rien par exemple. Je prends un exemple, là, les auditeurs vont se dire, bah oui, en effet, c'est préférable de détruire cette croyance, de s'en débarrasser. Alors si le mot détruire gêne, on peut utiliser toutes sortes d'autres mots, mais ça revient au même.
C'est transmuter pour venir aussi.
Voilà, c'est qu'on ne nourrit plus, on enlève, on retire la vie à quelque chose qui n'est pas juste. Et la destruction, c'est une des trois énergies fondamentales de l'âme. Hein, l'âme concentre les trois énergies qu'on appelle Atma Buddhi Manas. En langage hindouiste, c'est des mots sanscrits. Atma, c'est l'énergie de la volonté. Buddhi, c'est une racine Bouddh, ça veut dire éveillé. C'est l'énergie de l'intuition, de l'amour, sagesse, qui éveille. Et Manas, ça a donné homme. Man, c'est pensée, c'est l'énergie de l'intelligence. Atma, c'est le souffle, quelque part. C'est la vie, c'est cette énergie de volonté, de puissance. Donc, quand on peut appeler l'énergie de atmique, énergie de la volonté, qui a sa source dans la monade, mais qui passe par ce plan-là, l'âme la reçoit et l'âme peut la transmettre en dessous à ses véhicules, elle crée des destructions en nous. C'est une énergie qui permet aussi de synthétiser. Elle regroupe ce qui est juste. En fait, elle écarte, c'est la loi de répulsion quelque part, elle écarte ce qui est injuste, elle retire la vie, elle détruit. Et ce qui est juste, elle le rassemble, elle le synthétise et elle le vitalise en même temps. Chaque énergie a trois aspects, et donc la volonté, quelque part, on peut dire qu'elle vitalise, elle synthétise et elle détruit.
Donc à utiliser à bon escient, quand même, comme
voilà,
type d'énergie.
Exactement, c'est une énergie qui n'est pas facile à manier, à utiliser. Et c'est pour ça que ceux qui sont sous cette influence-là ont souvent des vies très destructrices.
Dans le sens négatif, là, oui.
Voilà, et aussi parfois d'une façon inévitable. Et c'est des gens qui n'évoluent pas du tout de la même façon que les saints, par exemple.
Les saints de la chrétienté, tu parles,
voilà,
par exemple.
Voilà, ou même des différentes traditions qui expriment plus le deuxième aspect de la divinité, l'amour ou la sagesse. Alors qu'eux évoluent sur une voie complètement différente, et ils ont une voie d'évolution et des épreuves et un parcours différent.
Ils ne doivent pas être très facile entre ces deux groupes, pour s'entendre entre eux, ça ne doit pas être très facile.
Non, 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 ni avec le troisième groupe qui est sur l'aspect beaucoup plus intellectuel, intelligence. Donc on peut dire qu'on a tendance, l'âme a tendance à, selon en fait la nature de la monade, du soi, a tendance, l'âme, peu importe son rayon, elle va vibrer sur un de ces trois aspects. Donc si vous êtes une monade 1, vous allez, peu importe votre rayon d'âme et vos autres rayons, vos autres énergies sont tous des sous-rayons qui vont vibrer sur le premier aspect. Donc l'évolution est différente. Si vous êtes une monade 2, l'aspect amour-sagesse va dominer dans votre âme et dans les autres rayons que vous avez. Et si vous êtes sur le troisième aspect, c'est l'aspect intelligence. Donc voilà, les voies d'évolution sont différentes, mais donc disons que la destruction est une part importante, un aspect de la divinité qui touche à la volonté, au dessein, à la vie, à la puissance.
Vous écoutez toujours le dictionnaire de la sagesse ancienne. David, un mot suivant. Alors là, beaucoup plus connu celui-là de plein de gens, et puis par contre, qui va être compris peut-être de façon différente selon les personnes, c'est le mot Satan. Satan, généralement, on associe ça au diable.
Ou à la bête,
À la bête, oui,
666.
dans, oui.
Ésotériquement, tout ça est relié ensemble. Et c'est aussi relié à ce qu'on appelle l'entité planétaire dans les enseignements ésotériques.
L'entité planétaire.
Voilà, à ne pas confondre avec le logos planétaire. C'est le pendant matériel du logos planétaire. L'entité planétaire, c'est Satan. Qu'est-ce que c'est?
C'est comme
C'est...
tu... Attends, excuse-moi. C'est comme si tu disais que le logo, c'est notre âme de chaque individu, alors que l'entité planétaire, c'est notre corps.
C'est notre personnalité même, oui.
L'ensemble de nos corps
Oui.
physiques, émotionnels et mentaux.
Toute la matière du monde.
D'accord.
Donc, on a souvent dit que la matière, comprise au sens large, allait du plan physique jusqu'au mental inférieur, et que cette matière était composée de vie élémentale, c'est-à-dire de minuscules particules, entités conscientes, mais en fait sur l'arc involutif. Sur l'arc involutif, elles continuent de descendre, d'involuer en fait, ces entités-là.
Devenir de plus en plus matière.
Voilà. Jusqu'à ce qu'elles touchent la densité extrême de la matière pour commencer à rentrer sur l'arc évolutif, en devenant des petits devas.
Donc nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes sur l'arc évolutif. Nous tendons à sortir de la matière pour aller vers l'esprit, pour dire comme
Ouais.
ça.
Mais on est
Alors,
composé
on est
de
composé
ces particules.
qui, elles, au contraire, ont tendance à vouloir
Voilà.
être encore plus matière, quoi.
Et c'est ça, Satan. Le diable, Satan, c'est tout simplement ce qui s'oppose. Satan, ça vient d'une racine, on trouve le mot shaitan en arabe, je sais pas comment ça se prononce. Satan, Seth, même chez les Égyptiens, c'est
Oui.
le frère, c'est l'aspect ombragé d'Osiris, qui est l'aspect lumière. Donc c'est l'aspect lunaire, c'est l'aspect darkness, c'est l'aspect sombre. Hein, c'est ça, Satan. Pourquoi noir? Parce que c'est sans lumière, et ça descend, ça involue. Donc ces entités-là sont littéralement le corps de Satan, de l'entité planétaire, qui regroupe dans ses différentes strates toutes ces vies-là. Donc sur un plan physique dense, d'ailleurs, notre corps n'est fait que d'élémentaux, puis il y en a sur le corps éthérique, sur le plan émotionnel et le mental inférieur. Et en tout, ça fait 18 sous-plans. Il y a trois états de la matière qu'on connaît, solide, liquide, gazeux, et il y a quatre types d'éther, quatre types de strates éthériques, ça fait 7. Dans le plan astral ou émotionnel, c'est pareil, il y a 7 gammes. Donc on est 7 et 7, 14. Et dans le mental inférieur, il y en a 4. Ça fait 18. Parce que les 3 au-dessus, c'est le plan de l'âme. Et là, il n'y a plus d'élémentaux. Il y a l'ange solaire, dit-on. On en parlera tout à l'heure. Donc sur ces 18 sous-plans, ça forme la bête. 666, ça fait 6 fois 3, 18. Pourquoi ce chiffre 6, 6, 6? Parce que le 6 représente le désir. C'est-à-dire ce qui nous attire vers la matière. Et le 3, il y a trois chiffres, ça représente le troisième aspect, le monde de la matière, de la forme. C'est pour ça qu'on a utilisé ce symbole. 666,
Ben oui.
666. Donc 666, la bête, c'est Satan. Et on voit comment on peut facilement confondre ça avec l'antéchrist, alors que c'est deux entités, deux énergies différentes. L'antéchrist, c'est l'énergie, on a vu,
Destruction.
de destruction qui est émise cycliquement, ou individuellement, mais cycliquement d'un point de vue collectif, alors que Satan, c'est la zone d'impact, qui doit, normalement, cette énergie détruit, transmute Satan. Donc ce n'est pas la même chose, il ne faut pas les confondre.
Oui, d'un côté c'est l'énergie et de l'autre c'est l'entité
C'est
sur
la
laquelle
force, oui.
s'exerce l'énergie, quoi.
Voilà. Donc on a tous une quote-part de Satan, du diable, on a tous des forces en nous, ce sont les forces de la personnalité. Je ne dis pas que la personnalité est faite que de cela, parce qu'il y a aussi des petites entités qui composent la personnalité, qui sont des petits devas, des petits anges qui, eux, sont sur la voie évolutive. Et au fur et à mesure, on épuise notre quote-part d'élémentaux, de forces sataniques, on pourrait dire, diaboliques, mais en fait des forces involutives, tout simplement, et elles sont remplacées par une quote-part de plus en plus grande de ces entités de lumière, qui composent littéralement nos corps, jusqu'à ce que les entités de lumière soient présentes à 100%. Et là, on devient un maître de sagesse. C'est-à-dire l'âme a fini son travail. Car le but de l'âme, c'est de s'incarner par la loi de sacrifice, justement. Elle se sacrifie, elle s'incarne à travers cette personnalité pour transmuter, faire évoluer ces petites particules. C'est le but fondamental, premier de toute âme. Toute âme s'incarne, vient au monde, quelque part, à travers une personnalité, pour transmuter. C'est-à-dire que Satan va disparaître au fur et à mesure. Et c'est comme ça aussi qu'une planète devient sacrée, quand l'aspect âme, les énergies solaires, sont plus importantes symboliquement que les énergies lunaires. Une planète devient sacrée, idem pour un homme, il devient un initié, puis après un maître.
Donc, est-ce qu'on doit consciemment et volontairement lutter contre ce Satan intérieur qui nous, dont
Alors,
nous sommes composés de ça, en
bien
fait?
sûr, on est composé de ça, il ne faut pas du tout mettre une charge. Alors, pas imaginer le diable, hein, cette image médiévale
Avec une queue et des
avec une
cornes et
queue,
puis
voilà.
une fourche.
D'ailleurs, ce diable, ça a été créé par les chrétiens parce que ça reprenait plein de symboles païens. C'était pour montrer, on a un peu le dieu Pan dedans, on prend la fourche de Neptune ou de Shiva, tout ça pour montrer que ce qui était avant le christianisme, c'était diablerie.
Ah oui.
Donc, en fait, cette entité n'existe pas, bien sûr. Mais cette énergie, l'entité planétaire, oui, mais c'est pas un homme, c'est pas un être, c'est un ensemble d'énergie. Voilà. Donc, on en a une quote-part. On est venu au monde sur Terre pour ça. On prend dans la carrière de cette grande montagne là, on prend les matériaux qu'il nous faut et notre mission, bah, c'est d'affiner ces matériaux-là, de les
On
faire
prend
passer.
ces matériaux pour nous créer un corps, un
Pour nous
décor, ouais.
créer un corps, mais on se crée un corps pour les faire évoluer. C'est-à-dire, on ne les prend pas parce qu'il nous faut un corps, on prend un corps pour les faire évoluer.
Tiens, on dit aussi ça quand on mange, hein, qu'on transforme
Tout à
la
fait.
matière végétale, par exemple.
Voilà, on l'a fait évoluer. On l'a fait évoluer en une nouvelle particule. Il en sort bien sûr les fesses, mais ces particules vont retourner et vont avoir vibré à un autre taux, vont avoir vécu des transmutations, et celles que l'on garde vont continuer en plus d'évoluer en composant notre corps. Donc voilà, c'est une très bonne image. On incorpore ces particules, mais donc on les transmute, on les fait véritablement changer. Et donc on a tous une part d'énergie involutive en nous. Et au fur et à mesure de l'évolution, cette quote-part diminue. Et il y a même des chiffres qui sont donnés par les maîtres. À la première initiation, on est composé des trois quarts d'énergie
Ça concerne
involutive.
quand même pas beaucoup beaucoup de monde,
Donc ça, voilà, ça, c'est moins d'1 million de personnes,
hein.
dit le maître de Benjamin Creme, un ésotériste moderne dont on parle souvent. Donc il dit que, et puis aussi dans les enseignements d'Alice Bailey, il est dit que voilà. Cette quote-part est présente aux trois quarts. Puis au deuxième stade, au début, c'est quand l'âme commence à prendre le contrôle du plan physique. Puis à la deuxième initiation, quand l'âme prend le contrôle du plan émotionnel, il n'y en a plus que la moitié. C'est énorme, le changement. Puis à la troisième initiation, quand l'âme s'empare même du mental, il n'y en a plus que deux tiers. Il en reste un quart quand la monade se débarrasse, détruit le concept même et l'énergie même de l'âme individuelle. Il ne reste plus qu'un quart dans les corps. Ces particules-là. Et à la cinquième initiation, c'est 100% de lumière.
Ah, c'est pour ça qu'alors là, c'est un maître de sagesse, donc il est immortel, c'est un être de lumière, oui.
Voilà. Son corps devient de plus en plus incorruptible. L'initié, hein, j'entends, il devient de plus en plus incorruptible parce que ces particules-là diminuent. Et la part lumière augmente jusqu'à ce que ces petits devas composent ces corps qu'utilise le maître à 100%. Il n'y a plus d'élémentaux, il n'y a plus de diable, il n'y a plus Satan. La porte est fermée définitivement.
Il n'y a pas de jugement de valeur derrière tout ça. Les élémentaux, ils vivent leur
Tout à
existence
fait.
et ils sont sur leur chemin aussi, hein.
Mais le mal commence lorsque ces élémentaux empiètent sur le pôle spirituel. C'est ça le
Si,
mal.
si nous tire, si nous empêche, nous, de nous élever, quoi.
Si on se laisse tirer par le bas. Voilà. Le mal commence là. On a tous des peurs, des émotions quelconques, la colère, on a tous des pensées négatives, on a un corps énergétique et physique imparfait, on a des maladies, même collectives, planétaires. Comme le cancer, par exemple, c'est dans le tissu planétaire. C'est tout. Donc la matière est imparfaite. Mais au fur et à mesure, ces particules évoluent, mais elles sont inconscientes. C'est comme des petits enfants, quelque part. On les représente d'ailleurs comme des lutins dans les traditions. Les gnomes, les lutins, toutes ces petites particules qui font un peu tout et puis n'importe quoi, qu'il faut éduquer, qu'il faut contrôler.
Les elfes, les korrigans.
Voilà. Il faut donc, il faut apprendre, il ne faut pas les mater, il faut les contenir, les diriger et les soumettre à une énergie supérieure qui les transforme. C'est littéralement ça, l'alchimie.
C'est intéressant de voir que il y a une conscience partout, même dans ces petites particules, hein. Il y a un mathématicien français, un physicien, Jean Charon, qui avait démontré qu'il y avait dans chaque même atome, il y avait une part de conscience, mais c'est pas la même conscience que nous. C'est-à-dire que l'évolution, l'action de ces particules n'est pas le fruit du hasard uniquement en tout cas, mais qu'il y a une. Oui, il y a quelque chose d'autre derrière qu'il a appelé, lui, une sorte de conscience.
Ces petites particules, en fait, sont les ouvriers qui doivent être contrôlés, dirigés par un maître de chantier.
Ouvriers qui fabriquent donc la matière.
Et voilà. À la différence que leur corps est littéralement la matière de nos corps inférieurs, de ces 18 sous-plans. Donc, qui fait l'ange fait la bête aussi, on dit parfois. Donc, c'est important de ne pas s'élever au-dessus de ça et de jouer à l'ange parce que la bête va revenir en force. On va vraiment la maîtriser et pas la laisser de côté.
Ah oui, pas faire comme si nous étions.
Des anges purs.
Oui, d'accord.
Ce qu'on voit beaucoup chez les mystiques, dans les mouvements New Age, par exemple. Ils ne comprennent pas leur constitution. Ils devraient comprendre qu'ils sont composés de ces forces-là, et qu'il ne faut pas les critiquer, les haïr, les fuir, mais qu'il faut les maîtriser.
S'incarner vraiment davantage et volontairement et avec dessein, quoi.
Comme on dit, la vie est un jeu, mais il ne faut pas faire semblant d'y jouer.
Vous écoutez le dictionnaire de sagesse ancienne. Autre mot, David, le mot faux prophète. En fait, il y a deux mots, excuse-moi, c'est faux prophète. Oui, on ne voulait pas traiter des prophètes là, mais des faux prophètes.
Voilà. On traite de cela parce que c'est lié un petit peu à tout ce qu'on a vu, hein, l'antéchrist, est-ce que c'est la différence avec Satan ou 666 la bête. Et donc, faux prophète, tout ça est amalgamé pour ceux qui lisent, par exemple, l'Apocalypse.
C'est quelque chose de chrétien ou ça existe dans les autres traditions, cette notion de faux prophète?
Peut-être pas le mot tel que, mais cette notion-là existe forcément parce que on l'a vu tellement, c'est toute l'histoire de l'humanité. L'humanité est conduite par des gens qui sont parfois des faux prophètes.
Qui n'ont pas le niveau pour la conduire, ça que ça veut dire?
Voilà, ou alors qui n'ont pas. Une prophétie qui ne tienne pas forcément une prophétie totalement lumineuse ou totalement éclairée. Donc forcément, c'est l'histoire du monde. L'idée du faux prophète est quelqu'un qui trompe, qui guide mal. Il trompe, donc. Et on peut dire.
Il est de bonne foi ou pas?
Alors ça dépend, il
Ça
peut
dépend.
être de bonne ou alors de mauvaise foi. Alors par exemple, on dit aussi, c'est pareil, c'est toujours lié à l'Antéchrist, quand cette énergie arrive cycliquement au début de chaque cycle, elle prépare la venue d'un Christ ou d'un grand instructeur. Mais il y a toujours avant des faux prophètes qui vont se prendre pour. Par exemple, il y en a toujours eu, à l'époque de Jésus, il y en avait plein, des prophètes, et puis même après, ça a continué, on en a encore maintenant, qui se prennent pour le Christ, je dirais même à un niveau, peut-être que les médiums sont en quelque sorte des faux prophètes parce qu'ils pensent être en contact avec des très hautes énergies, transmettre des messages dans lesquels il y a énormément d'illusions parce qu'ils viennent du plan astral. Donc la fausse prophétie, c'est tromper volontairement ou involontairement, tromper par des enseignements obscurs, des enseignements qui détournent ou qui apportent beaucoup de mirages. Le Tibétain classe, donc le maître Joel Cool, qui a travaillé à travers Alice Bailey, classe les types humains en trois groupes. C'est très intéressant. Il y a les destructeurs d'âmes, ceux qui se trouvent sur le premier rayon. Il y a les trompeurs d'âmes et les manipulateurs d'âmes. C'est intéressant. Alors quand on dit d'âmes, c'est de personnes, hein, de gens incarnés. Et les destructeurs d'âmes, c'est ceux qui font un mauvais usage du premier rayon, qui détruisent. Des grands dictateurs, des fascistes. Hitler, Mussolini, c'est typiquement des destructeurs d'âmes. Les trompeurs d'âmes, c'est ceux qui. C'est nos faux prophètes. C'est ceux qui vont apporter la tromperie, le mirage.
Ils vont
Et
égarer les
ils
gens.
vont égarer les gens. Et on peut dire que toutes les erreurs théologiques. C'est ça qui est intéressant, c'est que les religions nous annoncent attention aux faux prophètes, mais ce sont essentiellement les religions qui les ont créés. Elles en ont produit un nombre incalculable. c'est-à-dire des gens qui ont apporté dans notre esprit des formes pensées qui ont vraiment trompé, comme le péché originel.
La notion de péché originel,
voilà,
oui,
c'est quelque chose qui nous a complètement sapé
pendant des centaines d'années. Oui.
Voilà. Et alors, il y a parfois
l'enfer aussi. Hein.
L'enfer. Alors parfois, il y a des grands hommes, mais qui, dans leur œuvre, apportent des fausses prophéties, prophéties au sens large, hein, des faux messages, des faux enseignements. Je pense à saint Augustin, le grand saint du 5e siècle, grosso modo vers cette période-là. Il écrit la Cité de Dieu et il a vraiment théorisé le catholicisme quelque part. Et lui, à la suite d'autres apologistes chrétiens, a amené cette idée des élus. Il a amené cette idée que du fait de la chute, donc encore du péché originel, de la chute des anges, une place était restée au paradis qui avait des élus. C'est-à-dire qu'il y avait des âmes qui étaient depuis le début destinées à occuper ces postes-là. Et les autres étaient condamnés à une damnation éternelle.
Charmant.
C'est terrible.
C'est anti-chrétien au possible.
Oui. Par exemple, Origène, qui était un grand initié chrétien, avait lui...
Premier siècle, lui, avant
voilà,
donc. Hein.
Avait une idée, deuxième siècle plutôt. Avait une idée, lui, complètement différente. Il pensait qu'il y avait une grande transmutation générale, une grande rédemption générale, et que toutes les âmes seraient un jour rachetées quelque part. Mais voilà, cette idée donc de saint Augustin, elle a été terrible. C'est-à-dire que, et c'était très, très fortement repris dans le mouvement protestant, c'est qu'il y a des élus, il n'y a rien à faire. Depuis le début, il y a une grâce de Dieu qui descend sur certains. Donc il n'y a rien à faire, il n'y a pas à essayer de faire ceci, cela, parce qu'en tout cas, ceux-là seront élus. Et les autres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils iront en enfer, éternellement, après le jugement dernier.
C'est pas ce que disent aussi les témoins de Jéhovah ?
Oui, et tous les mouvements évangélistes, quelque part, viennent du mouvement protestant, et ils insistent beaucoup sur tout ce jugement qui est très très mal compris, hein, c'est la pesée des âmes de chacun en fait. Hein. Et ils classent voilà, l'humanité, ils séparent l'humanité en deux avec les élus, les 144 000 ou peu
et
importe.
Et donc il faut se battre pour faire partie de ces gens-là.
Voilà, et non, on ne peut rien faire, c'est plus terrible que ça. C'est que la voie des œuvres ne sert à rien.
Ah oui, d'accord.
Ça va plus loin que ça.
Donc on peut avoir une vie égoïste si on pressent qu'on ne en fait pas partie.
Et voilà, et bien sûr, si on fait partie de l'Église et qu'on est très actif, on a vraiment
plus de chances.
Des grandes chances d'avoir sa place au paradis. Donc voilà, ça c'est de la fausse prophétie, c'est des faux enseignements. Il y en a plein, il y en a dans toutes les religions, je veux dire. Hein. Dans l'islam, il y en a, on les connaît. Il y a par exemple le point de vue de la femme, qui a été, à mon avis, ce n'était pas celui du prophète, mais les textes ont été transformés et mal interprétés. On a ça même dans le bouddhisme. Il y a des fausses prophéties, des choses qui sont absurdes, à mon avis. Le fait qu'on puisse se réincarner dans des animaux.
Oui, ce qui n'est pas logique, c'est
ce qui n'est pas du tout logique. Et à mon avis...
Il n'y a pas d'évolution de conscience. Quoi,
le Bouddha a voulu plutôt exprimer qu'on pouvait, selon ses actes, s'incarner tel un animal. On peut s'abaisser à son animalité et on va se réincarner dans cette sphère-là de conscience. Mais ça a été pris au pied de la lettre.
Ouais.
Dans l'hindouisme, il y avait par exemple l'idée que les satis, il y a une phrase des textes sacrés qui a été changée, une déclinaison, et c'est plus devenu par le feu, mais dans le feu. Donc à la fin, on obligeait les femmes, les veuves, à s'immoler sur le bûcher funéraire du mari.
Par une transformation,
par
comme
une
ça,
transformation de la... simplement de ouais. la caste brahmanique d'un mot, ça devenait agné dans le feu. On a transformé et ça a été terrible. Les femmes s'immolaient et il a fallu certains groupes indiens aider aussi des Anglais pour arrêter cette pratique. Les castes, enfin, on pourrait continuer comme ça. Il y a énormément de fausses prophéties qui polluent la vie psychique et la vie religieuse dans le monde, qui ont incorporé dans l'esprit humain énormément de formes pensées qui trompent.
C'est souvent parce que c'est souvent dans les sphères religieuses parce que des gens prennent à la lettre des écrits anciens qui ont été
oui moi,
qui devraient être symboliques aussi quelquefois. Si on regarde saint Jean par exemple, le livre de la Révélation, comment on appelle l'Apocalypse de saint Jean, on pourrait l'interpréter à un niveau plus symbolique.
Bien sûr, mais c'est pas seulement dans le domaine religieux, même si on va avoir beaucoup de trompeurs d'âme dans ce domaine, mais il y en a dans le domaine politique aussi. Enfin, on peut en voir, par exemple, la guerre en Irak, on peut dire que c'était une tromperie.
Oui, carrément. Oui.
C'est une grande tromperie. L'idée aussi du choc des civilisations.
Oui.
C'est une tromperie. Pour moi, c'est une fausse prophétie. Ça ne tient pas debout. Même au niveau des cartes, ça ne tient pas debout. Il n'y a pas deux blocs comme ça. Les religions sont mêlées partout, les cultures. Il y a des chrétiens en Philippines. Voilà, il y a des bouddhistes énormément. C'est le deuxième pays au monde. C'est les États-Unis. Donc, ça ne tient pas debout.
Oui.
Et donc, c'est une fausse prophétie, quelque part. C'est un faux enseignement. Et les manipulateurs d'âme, eux, c'est différent. Ils manipulent, alors on les voit beaucoup dans le domaine économique, c'est ceux qui nous font croire que le néolibéralisme va libérer les gens, va apporter de la liberté, que tout le monde va profiter de cela.
C'est des gens plus matérialistes, on pourrait dire.
Oui, dans la manipulation, il y a quelque chose de beaucoup plus mental. Et, alors ça peut s'approcher, mais... C'est le fait d'utiliser son pouvoir mental au détriment des autres, on pourrait dire.
Dominé par l'intelligence. Par
un excès d'intelligence, de savoir-faire.
Ça dépend de la sagesse, donc.
Voilà. Donc les faux prophètes, pour conclure, il y en a partout, il y en a à tous les niveaux. Nous-mêmes, parfois, nous défendons des idées, des choses qui sont pas justes. Donc on a un faux prophète quelque part en nous, mais ésotériquement, voilà, quand c'est fait à une échelle beaucoup plus grande, voilà ce qu'est un faux prophète, c'est un trompeur d'âme, quelqu'un qui apporte du mirage dans le monde.
Et selon donc comment on dit, les prévisions, ce qu'on annonce pour les temps à venir, les faux prophètes viennent, il y a une recrudescence de faux prophètes avant que vienne un véritable prophète.
Oui, parce que les énergies spirituelles éveillent souvent les médiums. C'est ce qui se passe d'ailleurs en ce moment. On a eu énormément de médiums, de gens qui croient être en contact avec le Christ, parce qu'on sent qu'il y a le thème du...
Donc tu veux dire que si jamais le Christ se rapproche de la Terre, eh bien les médiums vont le capter avant le commun des mortels, pour finir.
Ils captent l'énergie et puis les formes pensées, les attentes.
Ouais, et il les
incarne.
Ah oui, d'accord.
Ils les incarnent. Comme les destructeurs d'âmes peuvent incarner l'antéchrist. Ils peuvent incarner l'énergie de la révélation et la biaiser.
Est-ce qu'on pourrait dire, pour finir, que les trois groupes de personnes dont tu parles, hein, donc...
Destructeurs d'âmes, trompeurs d'âmes et manipulateurs d'âmes.
Ouais, ils sont tous les trois sous l'emprise de Satan dont on parlait.
Oui, bien sûr. Elles sont sous l'emprise... de la Maya, comme on dit, l'illusion physique, le mirage, l'illusion astrale ou l'illusion mentale proprement dite, oui. Donc sous les élémentaux, les contrôles, les forces.
La matérialité, en fait.
Oui, de la pensée, des émotions, du corps.
Qui tendent vers le bas, vers le plus dense, au lieu de s'élever vers l'esprit.
Voilà, ce n'est pas une pensée lumineuse qui va élever, elle emprisonne, quelque part. Elle détruit, elle trompe, elle emprisonne, elle aveugle, on pourrait dire ça, oui.
David, un autre mot bien connu dans les gens qui ont reçu une éducation chrétienne, peut-être autre d'ailleurs, tu vas nous dire, c'est le mot Lucifer.
Mot très mal compris, ou en tout cas complètement dévoyé, complètement sorti de son sens originel. Lucifer, en latin, ça veut dire celui qui porte la lumière. Un lux,
ouais.
Lumière, et la racine ferrée, je crois, portée. Donc le porteur de lumière, c'est surtout pas Satan, alors qu'on l'a associé à Satan, au diable, à la bête, à toutes ces choses-là, comme s'il avait trompé le monde.
On l'a associé, on a cru qu'il y avait deux entités, ou on pensait que c'était la
même
chose ?
On pense que Satan a une cohorte comme ça de... d'anges démoniaques. Alors soit on associe Lucifer à Satan directement, ou à un de ses agents, comme Belzébuth et autres.
Ah,
tous
oui.
Les noms comme ça. Par exemple, Belzébuth, c'était un nom du dieu Bel, de la Mésopotamie, et les chrétiens ont passé leur temps à diaboliser les dieux
des autres.
Les dieux des autres.
Hein. Ouais.
Il y a un proverbe chinois que j'aime beaucoup qui dit les dieux de nos anciens sont non-diables.
Ah oui.
Et j'aime beaucoup cette phrase parce que ça colle très très bien au christianisme qui est fondé sur le paganisme, qui a des symboles païens partout, et qui prétend à être une sorte de lumière comme ça qui est descendue, éclairer le monde, sortie de nulle part, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc Lucifer, au début, les premiers chrétiens croyaient, à juste titre, que Lucifer était un ange de lumière de Dieu. Il y a même des groupes chrétiens qui s'appelaient des Lucifériens. Il y a même eu un pape, enfin un pape, je ne sais pas, mais un représentant de la hiérarchie catholique qui s'associait au pouvoir de Lucifer, à donc l'énergie de Lucifer. Alors donc Lucifer, au début, c'est pas du tout un diable. Et ésotériquement, Lucifer, qu'est-ce que c'est? Donc les gnostiques chrétiens le savaient, c'est le porteur de lumière, c'est notre ange solaire, tout simplement.
Notre ange solaire.
C'est la partie de nous-mêmes qui nous sert d'âme. Et Lucifer, c'est en fait l'ensemble de toutes ces âmes, c'est une sorte de surâme, c'est l'ange solaire qui émet des parties de lui-même, qu'on appelle donc l'ange solaire.
Donc c'est nous alors Lucifer, si je te comprends bien, en tant
Justement,
qu'âme.
voilà, c'est la partie de nous qui a accepté de chuter, mais pas au sens négatif du terme, qui a associé de s'incarner à travers une personnalité, c'est-à-dire un mental, un corps émotionnel, un corps. Et Lucifer, c'est le grand rédempteur, c'est le sauveur de l'humanité. Alors que cette chute a été interprétée d'une façon complètement négative, comme une chute dans la matière, et ça, c'est lié à la mauvaise compréhension du péché originel. Le péché originel, c'est une mauvaise compréhension du phénomène de l'involution, de l'incarnation. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève sortent de ce paradis car ça représente la sortie du monde céleste pour s'incarner. La pomme représente le mental, l'énergie du mental. Hein, ils goûtent à la pomme, au fruit de l'arbre,
Connaissance.
voilà, de la connaissance, parce qu'ils vont s'individualiser, ils vont être revêtus d'une énergie mentale. Et c'est ça Lucifer, c'est le mental supérieur. C'est l'énergie de notre mental supérieur qui est notre âme individuelle. Et c'est cette énergie qui nous pousse à créer un corps mental inférieur, émotionnel, physique, éthérique. Donc Lucifer, c'est notre âme individuelle.
Et pourquoi on appelle ça le porteur de lumière alors?
Ben justement, c'est l'envoyé de Dieu, c'est le messager de Dieu dans la matière, celui qui descend, qui apporte la lumière du
Ah,
monde.
de Dieu vers la matière, d'accord.
Voilà. Alors on dit d'un point de vue ésotérique que c'est une classe d'anges particuliers, les anges solaires, qui viennent du Soleil et qu'ils sont fortement rattachés à la planète Vénus. Et Lucifer était le nom pour Vénus. Et Vénus, on peut le comprendre de deux manières différentes. Soit Vénus, alors Vénus, Aphrodite, toutes ces déesses, elles ont un côté céleste, et là ça représente vraiment le Lucifer dont on parle, elles ont un côté terrestre, qu'on pourrait dire lié au désir, à l'attraction des formes. Hein, c'est des déesses de beauté, de désir, de volupté, aphrodisiaque, ça vient d'Aphrodite par exemple. Hein. Mais ça représente le pouvoir de l'énergie dans la chair, en fait, dans le corps. Alors que d'un point de vue spirituel, Vénus représente la sagesse, la lumière. Et toutes les anciennes déesses étaient des déesses, des reines qui étaient célestes. Hein. C'était des mères du monde, en fait. Hein. Donc cette énergie vénusienne, c'est une énergie donc de sagesse divine. Et notre âme incorpore quelque part cette sagesse de Vénus. Et on dit que, on parlait des Kumaras tout à l'heure, quand les Kumaras sont venus il y a 18,5 millions d'années, ils sont venus quelque part avec ces anges de Vénus, qui venaient eux-mêmes du Soleil, avec ces âmes individuelles qui allaient descendre et s'incarner en tant qu'être humain.
Tu veux dire qu'en tant qu'âme individuelle, on est plus vénusien que terrien?
Quelque part, oui. Dans la tradition ésotérique, il y a un symbole entre Vénus et la Terre, on dit qu'il ces deux planètes jumelles, mariées, et que Vénus représente le pôle féminin et le pôle spirituel, là, et Vénus et la Terre, pardon, le pôle masculin et le pôle plus terrestre. Alors c'est un petit peu bizarre
Incarnation, ouais.
d'associer, mais ici la sagesse est associée à un aspect féminin, parce qu'un aspect intérieur, subtil, c'est le sens que ça a, alors que la Terre représente l'aspect plus grossier. Plus tourné vers l'extérieur, c'est ça qu'il faut comprendre dans cette symbolique. Mais oui, on dit que la classe de ces anges-là sont occultement reliés à l'énergie de Vénus, et Vénus représente le cœur du Soleil.
C'est un peu compliqué tout ça, David, pour moi. Est-ce que j'ai compris correctement que cette entité que tu appelles Lucifer était composée de nos âmes individuelles?
Voilà, c'est la
Donc,
somme de toutes les âmes
on
individuelles,
peut dire
toutes.
c'est une surâme ou une.
Voilà, c'est la somme de toutes les âmes humaines. Et que ce
Mais
groupe d'âmes,
en tant que matière ou en tant qu'entité?
en tant qu'entité, ce sont vraiment des entités. C'est-à-dire, sur notre mental supérieur, il y a un Lucifer, quelque part, il y a un ange solaire à l'origine, vient du cœur du Soleil, mais qui est relié à la planète Vénus, puisque chaque planète a un rôle. Et que Vénus a importé quelque part ces anges solaires au niveau de la Terre, et ils ont composé nos âmes, c'est-à-dire qu'ils se sont installés quelque part dans le mental supérieur. Et là, on devient une âme
Mais
individuelle.
donc nous, on n'en est pas conscient.
Non, on n'est pas conscient, sauf que le fait de pouvoir dire je, de pouvoir se sentir une personne individuelle, avoir une conscience individuelle, ça on en est tout à fait conscient. Un animal n'a pas bénéficié de la descente de Lucifer quelque part. Il n'a pas d'âme individuelle encore. Quand un animal, alors qu'il a en fait, un animal est présent sur tous les plans quelque part. Il est relié à tous les plans de conscience, mais son mental supérieur n'est pas éveillé. Et cet ange-là, quelque part, s'installe. Vraiment, c'est une source de lumière, de conscience, et éveille l'entité en question, et on devient un homme, un être humain, quand on est doté d'une âme individuelle. Et ça va tout changer en dessous. C'est ça qu'il faut bien comprendre. On a une
Alors,
conscience de soi.
je ne sais pas si c'est le sujet là, David, mais est-ce que tu pourrais faire le lien avec la monade dans l'histoire? Parce que si on dit que l'âme, c'est une réflexion de la monade, la monade, c'est l'étincelle divine que nous sommes, donc cette partie toute petite d'un grand Dieu qui serait une énergie ou du feu, je ne sais pas, et nous en sommes une étincelle en tant que monade qui se reflète en tant qu'âme. Mais alors, comment faire le lien avec ce Lucifer qui serait l'ensemble de ces âmes?
Alors Lucifer, c'est le divin intermédiaire, justement c'est le porteur de lumière. Il est censé refléter l'énergie de la monade, une lumière encore plus subtile que la sienne, hein, une énergie plus divine encore quelque part, plus proche de la source en tout cas. Il est censé la refléter à l'intérieur de la personnalité. Il sert d'agent. C'est comme un miroir, hein. Il reçoit la lumière et on tourne le miroir et il la renverse.
Mais la monade, elle est individuelle ou pas?
Oui, elle est individuelle.
Et Lucifer n'est pas individuel?
Lucifer, collectivement, il contient toutes les âmes individuelles, donc tous les petits Lucifer, quelque part. Il faut ouvrir le terme largement, c'est un symbole, Lucifer.
Oui,
Hein.
oui.
Mais voilà, tout cet ensemble forme une grande hiérarchie qu'on pourrait appeler la hiérarchie de Lucifer, la hiérarchie des anges solaires. Et dedans, chaque être humain a une quote-part, son ange à lui, qui est une entité distincte d'un autre ange. Ton ange solaire n'est pas le mien, c'est deux entités distinctes. Et on est doté, c'est un don. Quand un animal est suffisamment développé, dans le lointain passé, voilà, les hommes animaux ont été dotés de cet ange qui est descendu, qui s'est incarné en nous, quelque part. Et à la quatrième initiation, l'initiation de la crucifixion, du grand renoncement, cet ange s'en va. Il a fini son travail. C'est ça, en fait, là. Cette fameuse crucifixion, elle représente le départ
Et à ce
de cette
moment-là,
âme individuelle.
nous sommes directement la monade, donc.
L'âme est là parce que la monade ne peut pas agir directement dans le corps. Alors au début, quand on est un animal, c'est pas grave, mais après, quand on est un être humain, c'est le moment où on va pouvoir travailler consciemment. Donc on est doté de cet ange solaire. Donc Lucifer, c'est le rédempteur de l'humanité, c'est le sauveur, symboliquement parlant. Mais dans les enseignements chrétiens et religieux de façon générale, on a tendance à dévoyer ou à mal comprendre certaines notions et à les enfermer toujours d'un point de vue mystique dans une dualité bien mal. Donc on a classé Lucifer dans le mal, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc la symbolique de la chute des anges comme de la chute de Adam et Ève, ce n'est pas l'idée d'un péché originel, c'est un décret de Dieu quelque part. C'est l'idée que c'est le moment d'involuer, de descendre dans la matière. Adam et Ève sortent du paradis parce que l'humanité doit venir sur Terre. Et Lucifer représente cette chute, pareil, cette descente, cette venue de l'âme individuelle en nous. Et cette âme va nous poursuivre durant toute notre évolution humaine, nous accompagner.
Quand tu dis en nous, c'est en nous en tant que personnalité incarnée, mais nous, en fait, c'est l'âme, nous sommes l'âme. Donc c'est que nous avons choisi à un moment de nous incarner.
Alors moi, je ne dirais pas qu'on est l'âme, je dirais qu'on est le soi et que notre soi est doté d'une âme individuelle. Mais fondamentalement, on devrait dire on est le soi.
Oui.
Comme le dit Maitreya, seul le soi importe. On est véritablement le soi. Et c'est ce qu'on apprend dans les enseignements théosophiques, hein. Les premières choses qu'on apprend, ça porte différents noms, on dit un Agnisvata, c'est un ange de feu, hein, un être de feu, que notre âme est littéralement sur les plans supérieurs, un corps causal, une sorte d'énorme lotus qui est habité par un ange solaire. Lucifer, l'Agnisvata, l'ange solaire, tout ça c'est synonyme. C'est un peu curieux, je comprends, quand on découvre ça, mais on comprend que l'être humain est un grand royaume, avec toutes ces petites particules dont on a parlé, les élémentaux, les devas qui composent nos corps inférieurs, qui a un ange solaire qui est le grand patron de tout ça, qui contrôle les petits anges, et que lui-même est un agent pour le soi qui est notre pure étincelle. On est composé de tout cela.
Et la pure étincelle, elle est terrestre ou vénusienne?
Elle est ni l'une ni l'autre, elle vient de la source. Elle est complètement. Je veux pas dire que les anges. Ils viennent de Vénus, chaque planète est reliée à une forme de hiérarchie, donc de groupement. Donc ce groupe des anges solaires sur toutes les planètes est rattaché à Vénus, c'est comme ça. Chaque planète a un rôle. Donc voilà, nos anges sont reliés avant tout à l'aspect solaire, à l'aspect lumière, et Lucifer est le porteur de lumière.
Bon, ben, je crois que peut-être David, tu aurais un livre à conseiller si des gens ont eu un petit peu de mal à suivre, qui seraient intéressés quand même par le sujet.
Alors, ils peuvent lire la doctrine secrète de Madame Blavatsky.
Oui, c'est un petit peu
C'est
difficile
un petit peu
peut-être.
difficile. Ils peuvent lire Initiation humaine et solaire d'Alice Bailey pour avoir les premières,
Voilà.
hein, les premières bases. Ou alors les ouvrages de Benjamin Crème, La mission de Maitreya, tome 1, 2 ou 3. Ou même d'autres livres qui sont très très simples, qui sont des ouvrages vraiment de vulgarisation de l'enseignement ésotérique au sens noble du terme. Hein.
Voilà, donc on va dire Initiation humaine et solaire d'Alice Bailey, BAILEY, ou bien La mission de Maître Ya, Benjamin Crème, CREME. Cette émission s'achève. Merci David.
Merci Olivier, merci à tous.
Et puis, bien c'est la dernière émission pour cette saison. On se retrouve à la rentrée, sous une forme ou sous une autre, David. Bon été à tous d'ici là.